Mais Friedenling, ça fait combien d'années que vous êtes à l'AMUS ? C'est récent ?
C'est très récent, oui. Je suis arrivé en septembre 2013, donc il y a maintenant à peu près un an et demi. Et j'ai eu la chance de succéder, et de succéder vraiment très facilement. Et c'est un hommage que je veux lui rendre maintenant à David Gies, qui avait dirigé l'AMUS depuis 1999, mais qui, aux côtés de Luc Ferrari, son fondateur, était à l'AMUS quasiment depuis le début, depuis 1982. Et donc, David a une histoire très très forte avec l'AMUS, et en même temps, il a été remarquable dans la passation et dans la liberté absolue qui m'a laissé effectivement en arrivant ici pour développer le projet que je porte.
Hier, nous fêtions Luc Ferrari. C'est aussi une manière de faire le lien avec l'histoire, puisque Luc Ferrari a fondé l'AMUS en circuit. Et pourriez-vous nous expliquer un peu l'idée du titre ?
Alors, expliquer, je pourrais donner une explication, en tout cas, et celle qui me convient le plus. Après, je connais pas suffisamment, effectivement, cette histoire-là. Je n'ai malheureusement pas connu Luc Ferrari directement. Donc, je ne fais qu'effectivement interpréter. On parlait d'histoire juste avant que le micro soit ouvert. Je suis uniquement dans la question de l'interprétation. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. J'étais très heureux du concert hier parce qu'effectivement, c'est très émouvant. Il y a dans l'ADN de l'AMUS, et dans cet ADN, je pense qu'il a été vraiment fondé par Luc Ferrari, un esprit de liberté et un esprit de légèreté, et en même temps un esprit provocateur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est toujours en décalage. Il a toujours une façon de faire de la musique aussi contre lui-même, c'est-à-dire d'être toujours dans une espèce de décalage par rapport à l'histoire dont il est issu, et en même temps par rapport à tout ce qu'il est en train de créer, qu'il est systématiquement en train de démonter, dont il est systématiquement en train de s'amuser. Et cet esprit comme ça de liberté, de défrichage systématique de tous les terrains musicaux, je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental pour l'AMUS. Après, l'AMUS en circuit, je trouve que ce qui est magnifique par rapport à la plupart des institutions musicale, c'est pas un acronyme, c'est un nom qui est très poétique et qui met effectivement en opposition la question de la muse, la question de l'inspiration, la question poétique, la question de l'antiquité également. Donc il y a tout d'un coup plein de choses qui résonnent, et la question du circuit, la question de l'électricité, la question de l'informatique, de la question de la mise en réseau des informations et des humains. Mettre en même temps la muse et le circuit effectivement dans un même mot, c'est une idée assez forte. Après, il y a la question du jeu de mots. L'amusant circuit, qui était effectivement, je pense, inhérent aussi à la pensée ferrarienne.
Sentait hier soir une ironie lacanienne, je dirais.
Je ne me prononcerai pas sur le rapport à Lacan, mais en tout cas, effectivement, il y a une ironie permanente, c'est-à-dire qu'il est toujours plus général que la question musicale. Donc en même temps, effectivement, le musicien a toujours une capacité absolument phénoménale à se replier sur lui-même et à parler de petits problèmes musicaux et à ne voir le monde qu'en fonction de petits problèmes musicaux qui sont souvent des problèmes quand même assez secondaires. Et puis, il s'amuse de ça, le met à distance et en même temps prend des considérations générales sur la question de l'être, de la sexualité, sur la question du monde, puisque sont évoqués les grands rapports effectivement de géopolitique. Et toujours en même temps dans ce même esprit rieur, vif et provocateur.
J'ai vu que vous étiez à l'Ève d'Alain Goussin, alors ça m'a surpris un petit peu. Pourriez raconter un peu votre itinéraire, parce que je ne le connais pas en fait.
Oui, alors je vais essayer d'être relativement bref, mais je pense qu'avant de commencer sur la question musicale, en fait, je viens d'une famille théâtrale. C'est-à-dire que mes parents étaient comédiens et metteurs en scène, et mon père a été directeur technique très longtemps, en fait, de gros théâtres comme Chaillot avec Antoine Vitez, Les Amandiers avec Patrice Chéreau, et puis ensuite l'ouverture de l'Opéra Bastille et tout ça. Donc j'ai baigné, en fait, tout petit, entre effectivement Les Amandiers de Patrice Chéreau et le Vitez de Chaillot. Donc mon milieu naturel, en fait, de départ était plutôt la question du théâtre. Mais en même temps, à Chaillot, il y avait Apergis, qui faisait les musiques d'Antoine Vitez et qui faisait déjà effectivement les mises en scène. Et donc, moi, je m'amusais plutôt avec les enfants d'Apergis, et on faisait tout à fait autre chose. Et je voyais d'un œil un peu lointain ces bizarreries à la fois scéniques et musicales. Et puis, je voulais pas faire du théâtre parce que, évidemment, on ne va pas reproduire le modèle parental, donc je voulais faire absolument autre chose. Et puis je suis beaucoup plus allé vers la musique, d'abord classiquement en faisant du piano, du violoncelle quand j'étais petit, et puis ensuite en faisant évidemment du rock ou du jazz rock dans les années 80 et 90, avec les enfants Apergis d'ailleurs à cette époque-là, c'était assez drôle. Et ensuite, en revenant après le jazz, en fait, sur la question de l'écriture, c'est-à-dire que rapidement, en voulant... Je pense toujours dans cet esprit de liberté aussi de se dire, mais on peut toujours découvrir d'autres univers musicaux. La question de l'écriture pour Big Band, en fait, m'a ramené au conservatoire et aux classes d'écriture. Et donc ensuite, en suivant un cursus traditionnel de compositeur et d'électroacoustique. Et c'est bien après, en fait, les études au conservatoire qu'en écrivant une pièce pour la harpiste Hélène Bréchamp, qu'est revenue la question de l'improvisation. Et j'ai redécouvert en fait tout ce qu'on appelle l'improvisation générative, l'improvisation libre, bien après mes études en fait au conservatoire, dans différents conservatoires, grâce à une musicienne et à Hélène Bréchamp qui ensuite a été une partenaire très très importante pour moi.
L'électroacoustique apparaissait dans votre parcours ?
L'électroacoustique, en fait, elle a été, j'en ai beaucoup fait, un peu comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire que je savais pas que ça s'appelait l'électroacoustique. Il y avait toujours il y avait des magnétophones chez moi, et j'ai toujours bidouillé sur des magnétophones. Ensuite, on avait des quatre pistes, et on enregistrait des quatre pistes, et on faisait des re-re sur les quatre pistes, on utilisait des pédales d'effet, et je faisais des morceaux de musique, en fait, fixés, qui étaient pas faits pour être interprétés. À l'époque, j'écrivais déjà des morceaux, mais il y avait des parties, en fait, d'électronique qui pouvaient être faites, et j'ai découvert effectivement après qu'il existait en fait un mouvement. Alors je connaissais déjà l'existence de Pierre-Henri, mais ça me semblait lointain comme aperguis. Je trouvais ça beaucoup trop intellectuel pour être suivi dignement. Donc je faisais autre chose en fait, mais sans savoir qu'effectivement il y avait une grande école derrière ça. Et ça, je l'ai redécouvert au conservatoire, et puis pour d'autres mouvements aussi, ensuite à travers des rencontres comme celle de Casper Toplitz ou la question de la noise music. J'ai beaucoup été attiré par la question du bruit, sans savoir effectivement que la question, je voyais évidemment le travail de Varèse, qui était quand même un travail qui a libéré effectivement les imaginaires sur la question instrumentale et sur la question électronique, mais je connaissais peu finalement tout ce mouvement de la noise music que je trouve très important, et que j'ai découvert, comme la plupart des grandes découvertes à mon sens, en discutant et en collaborant avec des musiciens.
Qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter vers la production et venir dans un centre de création, puisque c'est bien ce qu'on dit, centre de création, national peut-être même.
Un centre national de création musicale. Nous sommes riches surtout de ce label qui aujourd'hui nous protège et nous conforte beaucoup. Alors la question de la production, je pense qu'elle est venue parce qu'on n'échappe jamais à son passé. Elle est revenue aussi par la question du théâtre, c'est que finalement, évidemment, très tôt, j'ai fait des mises en scène de spectacles. Alors, est-ce que c'est du théâtre musical? Non, c'est certainement pas du théâtre musical au sens aperguisien. La question d'Ainer Goebbels, ça a été très très importante pour toute ma génération. C'est-à-dire qu'on a été très nombreux, pour les quarantenaires aujourd'hui, à être traumatisés par Ainer Goebbels, par la puissance scénique et aussi l'éclectisme musical qui est absolument phénoménal. Ainer Goebbels, qui d'ailleurs avait, je l'ai appris récemment, en fait, avait collaboré avec Luc Ferrari, s'était rencontré à plusieurs reprises, et il a travaillé avec la mise en circuit. Et c'est vrai que cette inspiration du Hörspiel et de la question hörspielienne sur le travail d'Ainer Goebbels, c'est assez intéressant aussi, c'est un éclairage intéressant. Donc via la gestion d'une compagnie aussi, je suis venu à des questions de production, puis j'ai toujours été engagé sur la question de défendre la musique aujourd'hui. C'est aussi un héritage théâtral d'ailleurs, c'est-à-dire que je suis un peu effrayé par les musiciens qui sont si peu engagés effectivement dans la question de la politique, de la polyculturelle, même à titre tout à fait intéressé et égoïste, c'est-à-dire que n'importe quel élève du Conservatoire National d'Art Dramatique sort du conservatoire, monte une compagnie, fait des demandes en DRAC, c'est-à-dire que c'est un parcours logique, et puis au bout d'une dizaine d'années, il postule à un CDN si ça se passe bien. En musique, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que il y a une culture récente et qui se met en place, qui à mon avis est essentielle sur la question du maillage du territoire, de compagnies indépendantes effectivement qui se montent, qui sont plus dans la reproduction de la logique d'ensemble, qui sont dans la logique effectivement plutôt de créateurs, de collectifs. On voit qu'il y a une nouvelle dynamique par rapport à ça. Et ça, je l'ai eu très tôt parce que je venais effectivement du théâtre. Donc la production, je m'y suis engagé aussi en m'occupant de lieux comme Naxos Bobine ou comme en montant des festivals en fait assez vite. Et pour moi, il était naturel effectivement après de postuler à des postes de ce type-là. Et j'ai eu la chance d'être nommé en 2013 à la mise en circuit qui est un endroit absolument magique et incroyable.
Et tu as prononcé le mot Hörspiel. Alors, c'est effectivement un ADN de Luc Ferrari. Mais qu'est-ce qui en fait la différence?
C'est une histoire que j'essaye de démêler en fait un petit peu, parce que c'est derrière le Hörspiel, finalement il y a mille choses et je sais pas trop en fait exactement définir ce que c'est que le Hörspiel. Et en même temps, c'est comme on est un centre national de création musicale. Quand on me demande ce que c'est que la création musicale, je sais pas trop, et ça me convient très bien comme ça, c'est-à-dire que ça permet effectivement de chercher toutes les musiques qui sont différentes, tout l'esprit de liberté effectivement, que ce soit dans la question de l'écriture ou dans la question de l'improvisation, dans la question électronique ou dans la question acoustique, de chercher effectivement les endroits qui ne correspondent pas à la norme établie par notamment les circuits commerciaux de la musique et surtout les mass médias. Donc la question du Hörspiel, elle se pose à plein d'endroits qui résonne particulièrement à mon cœur sur la question du texte, évidemment. C'est-à-dire que la question radiophonique, en fait, est très importante. Il y a des hors-spiels sans texte. Il y a quand même beaucoup de hors-spiels, effectivement, qui permettent de mettre en scène la voix du point de vue sonore, ce qui est très, très différent, en fait, d'un rapport scénique à la voix. C'est-à-dire que le rapport à l'intimité de la prononciation devient immédiatement musical, parce que on est, quand on parle à un micro, effectivement, sur les petites respirations, sur la moindre hésitation sur le mot, devient à ce moment-là quelque chose qui devient éminemment musical. Et cette chose-là, alors elle a été en Allemagne, elle existe évidemment de façon très développée. En France, elle est beaucoup liée à la muse, mais la radio continue en tant bien que mal à essayer de défendre un petit peu. Ça arrive de temps en temps. Et moi, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est important, notamment à travers une autre face importante de la muse, qui est les concerts sous casque. Et là, on est en train de produire un nouveau type de concert sous casque avec le projet de Roland Osé, qui permettra d'avoir un nouveau dispositif de 200 casques HF et d'entendre des comédiennes dans un espace public de façon extrêmement rapprochée, en fait, comme à la radio, d'entendre effectivement la musique de façon extrêmement précise tout en étant environné d'un univers qui est tout à fait autre que celui du spectacle traditionnel. Donc toute la question du hors-spiel et de l'extension du hors-spiel, pour moi, elle a demain des ramifications vraiment riches.
Quand on parle du GRM, on pense tout de suite à ces batteries de haut-parleurs, donc c'est une autre forme de l'intimité.
Je pense, c'est une écoute paradoxale, le concert sous casque, parce que c'est vrai que la question de l'espace, après il y a différentes façons d'envisager l'espace, et la muse est pas dans une école particulière, c'est-à-dire qu'on défend autant le travail de la compagnie Motus, on accueille Pierre-Henri prochainement, qui est un des immenses créateurs du XXe siècle, sûrement un des plus grands compositeurs qui nous restent, et un des seuls qui soit connu avec Pierre Boulez. C'est quand même, s'il y a deux figures qui sont connues, c'est Pierre-Henri et Pierre Boulez. Après, on tombe vite dans l'anonymat total. Mais donc, c'est une figure qui est encore vivante, qui est extrêmement active, et qui compose encore de façon régulière. Et la question acousmatique, effectivement, elle explore de façon différente que celle de l'IRCAM, où la question de l'espace, en fait, est beaucoup plus pensée et rationalisée par la question du logiciel et par la question de la reproduction d'espace, en fait, via l'informatique. Et au casque, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on peut travailler alors de différentes façons. Ce qui se développe énormément aujourd'hui et qui commence à être efficace en temps réel, c'est la question du binaural, donc qui est en fait juste une question de filtrage et de déphasage des sons qui permet de reproduire un espace 3D à l'intérieur d'un casque. C'est vrai qu'on n'a toujours que deux oreilles, et en même temps, avec ces deux oreilles, on perçoit très très bien les espaces, finalement. C'est-à-dire qu'on sait ce qui est devant, ce qui est derrière. Et dès qu'on passe avec l'amplification ou avec un casque, finalement, cette chose-là devient très très complexe. Et aujourd'hui, il y a plein d'algorithmes de filtrage qui permettent de reproduire un petit peu ces espaces-là de façon différente. Donc ça, c'est une dimension de l'espace qu'on retrouve au casque. Et puis, il y a aussi surtout la distanciation, là, pour reprendre une dialectique brechtienne. Le spectateur peut être extrêmement éloigné ou extrêmement proche de la source qui émet le son. Et en même temps, ce rapport d'intimité, en fait, physique ou d'éloignement physique est complètement dissocié de l'intimité de l'oreille. Et donc là, il y a deux dimensions, en fait, qui sont complètement séparées. Et en même temps, c'est une écoute qui est totalement refermée sur soi, puisqu'on est, enfermé dans un univers qu'on est le seul à entendre. Et en même temps, parce que tout le monde est équipé, on sait que tout le monde entend exactement la même intimité. Donc il y a vraiment ce jeu bizarre entre différents paradoxes qui crée une écoute très particulière qui, à mon avis, est vraiment féconde.
C'est un lieu aussi de production, donc il y a des ingénieurs, des logiciels que l'on crée.
Alors la question de la recherche est complexe en musique. On était hier à l'IRCAM avec les CNCM. Pour ma part, je suis très attaché à la question de la recherche artistique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu dans les années 60 une espèce de glissement sur la question scientifique qui permettait de légitimer en fait un discours musical. Je pense que la question de, on demande pas à un metteur en scène ou à un chorégraphe de légitimer son travail par une pensée algorithmique ou par créer des logiciels ou des ordinateurs. C'est-à-dire que c'est bizarre qu'en musique, on ait eu cette espèce de décalage en fait vers la technologie en disant mais dites-nous ce que vous produisez technologiquement et on vous dira si c'est bien musicalement. Je crois que c'est essentiel de revenir vraiment à cette base qui est d'abord une base artistique. Et la question de la recherche, pour moi, elle passe d'abord par la question effectivement de la recherche artistique. Donc on produit des formes, effectivement, qui sont des formes qu'on classe d'innovantes. Je pense que la nouveauté, c'est vieux comme le monde, mais disons qu'ils sont en tout cas différentes de la masse de ce qu'on entend habituellement. Après, le rapport à la technologie, moi j'ai fait beaucoup de patch et je suis aussi issu des technologies hircamiennes, mais c'est qu'un outil, c'est-à-dire que ça ne peut pas définir ni une qualité esthétique ni une démarche nouvelle. Donc on fait effectivement parfois du travail avec des ingénieurs, parfois du travail avec des développeurs, mais la question essentielle à remettre toujours en avant, c'est d'abord la question artistique. Et la recherche fondamentale que l'on fait à la mise en circuit, c'est de la recherche artistique.
Qu'explique le centre de création ?
Centre national de création musicale. Alors, je suis très tatillon sur cette chose-là.
Mais oui, c'est important.
Mais parce qu'on est quasiment les seuls, effectivement, sur le territoire en fait de la musique, à bénéficier d'un label d'État, au même titre, effectivement, que les centres dramatiques nationaux, les CDN ou que les CCN, et que c'est quelque chose qui est important d'abord du simple aspect pratique, parce qu'avec le désengagement des politiques publiques qui sont à la manœuvre, la question du label d'abord nous protège, donc c'est une chose qui est importante. Mais l'autre chose aussi qui est plus symbolique et politique, c'est la question aussi du réseau dans le spectacle vivant. C'est-à-dire que la musique fait partie quand même d'un microcosme qui est le spectacle vivant, et on a eu un petit peu tendance à l'oublier et à vivre un peu en autarcie de façon autonome. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir confronter le théâtre ou la danse, ou les arts plastiques sont très différents de la question de la musique. La musique fait toujours un petit peu peur parce que la musique c'est énorme. C'est-à-dire que c'est colossal, il y a plein de types de musique, de l'opéra à la techno, c'est de la musique. Il peut y avoir de la création en opéra, il peut y avoir de la création en techno, il peut y avoir de la création en rock. Ça représente des masses colossales de public et de concerts en fait en permanence. C'est sûrement l'art le plus développé et en même temps qui est tellement éclectique que la question de l'histoire et du répertoire a totalement explosé dans mille histoires justement différentes. Mais je trouve que pour ce qui concerne la création musicale, on a à se rapprocher d'une logique de spectacle vivant sur simplement la question des coûts de production, sur la question des coûts de plateau, pour aussi inventer une nouvelle forme de diffusion qui, moi, me semble essentielle pour, si on veut, élargir la question des publics, c'est-à-dire ne pas rester enfermé sur notre petit précaré de spécialistes avec qui on aime beaucoup discuter musique, etc., mais se dire qu'effectivement, nos musiques, d'abord, méritent d'être partagées, parce que la chose que je défends le plus, c'est la question du plaisir, et quel que soit le type de musique, qu'elle soit extrêmement saturée et complexe ou extrêmement minimaliste, la question du plaisir de l'écoute et du renouvellement de ce plaisir est pour moi l'argument essentiel à défendre en musique.
Vous parliez de réseau, il y a Futur Composé, je sais que David Di s'est beaucoup engagé et fait partie des pionniers qui a créé justement cette idée, cette entité.
Ah mais David est un formidable militant effectivement de la cause de la création musicale, et que ce soit à la mise en circuit, que ce soit à la radio, que ce soit à Futur Composé qu'il a vraiment créé, qu'il a su fédérer. C'est une chose tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'en musique, il n'y a jamais eu dans l'histoire une fédération comme ça d'organismes aussi éclectiques, parce que la musique en même temps est une grande famille, mais avec que des cousins qui se détestent, donc c'est toujours très compliqué d'arriver à mettre effectivement les différents intérêts ensemble. Là, il y a une réunion de plus de 200 membres à Futur Composé, et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment unique dans l'histoire de la musique, et qu'il doit beaucoup à David. Il continue à être très militant également sur la question des CNCM, puisqu'il y a une association qui s'appelle En Réseau, et qui effectivement est très préoccupée de la place de ce réseau sur le territoire, et de comment est-ce qu'on peut dynamiser effectivement cette histoire des CNCM, qui ne peut s'inscrire, effectivement, c'est pour ça qu'on est aussi très défenseur de la question de Futur Composé, que dans un paysage beaucoup plus large.